Jean de La Fontaine est né il y a 400 ans. Il a marqué l'histoire par ses fables. Son œuvre occupe une place de choix dans le patrimoine culturel français et certains préceptes sont entrés dans la sagesse populaire. Né à Château-Thierry dans la campagne Picarde, le 8 juillet 1621. Jean de La Fontaine grandit en se passionnant pour la lecture d'œuvres antiques. Après le collège, il passe 18 mois à l'oratoire, à partir de 1641. Cependant, ne s'intéressant pas aux études religieuses, il préfère aller étudier le droit à Paris et obtient son diplôme d'avocat en 1649. Parallèlement à ses études, il fréquente un salon littéraire, des jeunes passionnés de littérature, les chevaliers de la table ronde, et compose ses premiers vers. En 1653, sa femme, Marie Héricard, qu'il avait épousée en 1647, lui donne un fils, Charles. Madame de La Fontaine est une femme cultivée qui, à l'instar de son mari, fréquente toujours les salons littéraires. En 1654, La Fontaine publie sa première comédie, L'Eunuque, adaptée du poète latin Terence. La mort de son père en 1658 le laisse dans une situation financière inconfortable qui le conduit à chercher un protecteur. Il le trouve alors en la personne de Nicolas Fouquet, surintendant des finances, pour qui il compose plusieurs œuvres, et donc des ballades, des sonnets, et le poème héroïque Adonis en 1658. Le poète fréquente alors les sociétés précieuses et rencontre d'autres grands artistes, dont Charles Perrault et Molière. Il vit entre Paris et Château-Thierry, sa ville natale, où il exerce notamment la charge de maître particulier des eaux et forêts. Lorsque Fouquet tombe en disgrâce en 1661, La Fontaine lui reste fidèle et prend sa défense avec sa poésie dans « Élégie aux nymphes de Vaud » en 1662 et « L'aude au roi » l'année suivante. Suite à ses publications, le poète préfère s'exiler quelque temps à Limoges. Pendant ce voyage, il écrit à sa femme une série de lettres qui seront publiées en 1663 sous le titre « La relation d'un voyage de Paris en Limousin » et qui rassemble des descriptions des paysages et villes traversées. À son retour à Château-Thierry quelques mois plus tard, La Fontaine courtise la duchesse de Bouillon et la persuade de devenir sa nouvelle protectrice. Elle lui permet en 1664 d'obtenir à Paris le poste de gentilhomme servant chez sa nouvelle bienfaitrice, la duchesse d'Orléans. Il connaît alors le succès dans les salons et publie de nombreuses œuvres, dont les trois recueils de contes et nouvelles en vers, publiés en 1665, 1666 et 1671. Il s'essaie aussi au roman, avec les amours de Psyché et de Cupidon. En 1669. En 1668, La Fontaine publie son premier recueil de fables qui connaît un immense succès. Il rassemble 124 fables dédiées au dauphin, fils de Louis XIV. Le poète y met en scène des animaux pour critiquer les hommes et dénonce les grands problèmes de son époque. En 1678 et 1679, paraissent deux autres recueils de fables contenant 87 fables supplémentaires. Ces fables, appréciées des petits comme des grands, restent actuelles grâce à la simplicité de leur langue et à leur forme imagée. En effet, même si de nos jours la censure a disparu, la stratégie narrative adoptée par La Fontaine, utiliser des animaux pour représenter les traits moraux des êtres humains, reste toujours aussi astucieuse et drôle. Le fabuliste a souvent puisé son inspiration dans des fables plus anciennes, écrites par Ésope, Horace ou encore Pilpée. Et il a renouvelé ce genre en en réinventant totalement la forme. Le court récit devient alors un élément essentiel, au même titre que l'est la morale didactique, qu'il a conclue. Le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, le lion et le rat, le loup et l'agneau sont parmi les fables de La Fontaine les plus connues. Après la mort de la duchesse d'Orléans en 1672, La Fontaine se place sous la direction de Madame de La Sablière. Il publie alors des œuvres variées, notamment un recueil de contes licencieux qui est interdit, Les Nouveaux Contes, en 1674, des poèmes religieux, Daphné, en 1674 également, et plusieurs pièces de théâtre. La Fontaine, poète célébré, est alors élu à l'Académie française en 1683, succédant à Colbert. Il y prend la défense de la littérature latine et grecque en 1687, lors de la querelle des anciens et des modernes. À la fin de sa vie, La Fontaine est contraint par son confesseur à renier ses écrits licencieux. Le poète s'éteint le 13 avril 1695 dans la maison de Hervard, une famille de banquiers qui l'avait pris sous sa protection en 1693. À la mort de Madame de La Sablière. Jean de La Fontaine, le fabuliste, perd son ami Molière. Au cœur de la nuit, La Fontaine accompagne son vieil ami, Jean-Baptiste Poquelin, jusqu'à sa dernière demeure. Un texte d'Irina de Tchikhov. Il fait nuit. À la lumière des flambeaux, quatre prêtres conduisent le cercueil de Molière. Il est recouvert du poil des tapissiers du roi. La Fontaine, Boileau, Claude Chappel et Pierre Mignard en tiennent les cordons. Louis XIV a obtenu de l'archevêque de Paris que Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, soit enterré chrétiennement, bien qu'il n'ait pu, avant sa mort, renier son métier de comédien. Monseigneur Harlay de Champvallon a bien voulu y consentir, mais à condition qu'il n'y ait aucune pompe et que les funérailles se déroulassent hors des heures du jour. Les épaules un peu voûtées, La Fontaine songe en marchant au ravissement qui fut le sien lorsqu'il avait assisté à Vaux le Vicomte au fâcheux. Depuis, une amitié profonde, sincère, liait les deux hommes qui avaient presque le même âge. Ils n'ont jamais eu le moindre sujet de querelle. Ils se voyaient moins souvent qu'ils n'auraient voulu, car Molière, longtemps favori du roi, avant que Lully ne le supplante, était constamment au four et au moulin. Il ne participait pas toujours aux agapes dans les quelques tavernes, et il n'a jamais séjourné chez La Fontaine, à Château-Thierry, comme Boileau et Racine. En revanche, lorsque las des galanteries de sa trop jeune femme, avec des blondins à particules, exaspéré par les dévots qui avaient obtenu l'interdiction de Tartuffe, Jean-Baptiste s'était retiré dans une maison à Auteuil. La Fontaine est souvent venue souper avec lui, parfois avec Boileau, le plus souvent avec l'ami Chapelle, qui savait égayer Molière, même lorsqu'il broyait des idées noires. La Fontaine soupire. Il est lui aussi assailli depuis quelque temps par une sombre mélancolie. La duchesse douairière d'Orléans est morte l'année dernière et Jean a perdu son service au palais du Luxembourg. Il ne possède plus sa charge de maître des eaux et forêts de Château-Thierry, car le duc de Bouillon en 1671 a racheté tous les offices royaux. Ses contes et ses fables n'ont enrichi que ses libraires. Quant à ses brillants protecteurs, aucun d'eux n'a jamais songé à lui constituer une petite rente. On l'invite, on le fête, on recherche sa compagnie. Parfois, il reçoit une gratification. Mais aujourd'hui, La Fontaine en est réduit à vivre dans un taudis rue du Battoir. Il ne se plaint pas. Nul, sinon lui-même, n'est coupable de sa situation. Il a trop dansé, trop chanté, trop joué surtout. C'est une passion dévorante, un feu qui l'a consumé. Et tandis que le cortège est parvenu au cimetière Saint-Joseph, Jean entend déjà les récriminations de son épouse. Plus avisé, Molière s'était constitué une fortune confortable. La demeure qu'il a achetée rue de Richelieu, après avoir repris la vie commune avec Armande, en témoigne. La Fontaine ne lui a jamais parlé de ses difficultés, du spectre de la misère qui le menaçait. Sans doute l'aurait-il aidé, une fois, deux fois, trois fois peut-être, ou même davantage. Mais comment soutenir celui qui ne sait pas se conduire ? Celui qui, aussitôt qu'il a reçu 100 ou 1 000 livres, en dépense le double, sinon le triple. À la Bassette, avec le Cloris, des musiciens, ou bien en achetant des livres rares ou des bustes antiques. Faudra-t-il vendre son ultime bien, sa maison natale de Château-Thierry ? Jean y songe. Mais comment l'annoncer à sa femme qui y réside ? La Fontaine a eu l'honnêteté de procéder à une séparation de biens avec Marie, car il pressentait que sinon, il l'entraînerait dans sa ruine. Il ne risque donc pas de finir à la rue comme lui. Comme lui. Mais que de reproches. Que de criailleries il devra subir. Le moyen de faire autrement. Tandis que le cortège est parvenu au cimetière Saint-Joseph, j'entends déjà les récriminations de son épouse. Monsieur ne songe à rien. Monsieur dépense tout. Monsieur court. Monsieur se repose. Mon Dieu. Mon Dieu, quel tintamarre. Le fossoyeur ont enlevé le poil des tapissiers sur le cercueil et le font descendre, lentement, en terre. Chapelle sanglote, Minière pleure, Boileau reste impassible. Tout bas, La Fontaine récite l'épitaphe qu'il a écrite pour Jean-Baptiste. Molière a rejoint Plaute et Terence, ses pères. Tous trois reposent désormais dans la même tombe, car ils étaient animés par un même esprit. Dans le secret des fables, La Fontaine, l'ami retrouvé. Il sut manier avec un naturel confondant la langue de la cour et celle du bon peuple. Parler philosophie avec des mots simples. Mettre en mots réjouis les grivoiseries qu'il avait sa vie durant pratiquées à foison. S'essayer au théâtre, ne point s'y arrêter. Et créer l'air de rien la fantaisie d'un monde où le lapin taquin, la cigale étourdie, le moustique obstiné ressemblent comme des frères aux poètes et à ses semblables. Des coteaux champenois aux tavernes parisiennes, de Vaulx vicomtes au salon de la rue des Petits Champs, le maître des eaux et forêts sillonna l'existence épicurien bonhomme, l'esprit aux aguets, l'œil pétillant. Après une enfance champenoise rêveuse, ce bon garçon, fort sage et modeste, selon son ami Louis Maucroix, découvre les cabarets et goûte la joyeuse vie littéraire du Paris du grand siècle, celle de Molière, Boileau, Racine. Fidèle au Fouquet dans sa disgrâce, pas assez courtisan pour une carrière littéraire fulgurante, La Fontaine entre néanmoins à l'Académie française. Suivre ses traces. Entendre l'écho de son œuvre au fil des siècles et des livres. C'est entrer au royaume d'un styliste virevoltant, d'un génie de l'à-propos, d'un moraliste en robe des champs. Quelques fables, et le corbeau et le renard, la fable sans doute la plus connue, la plus dite de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Les femmes et le secret. Une fable peut-être un peu moins connue. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu ! Qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus ! On me déchire ! Quoi ? J'accouche d'un œuf ! D'un œuf ! Oui ! Le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire. On m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et court chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Oh, nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère.
Vous moquez-vous, dit l'autre.
« Ah, vous ne savez guère quelle je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle.
L'autre grille déjà de conter la nouvelle.
Elle va la répandre en plus de 10 endroits.
Au lieu d'un 9, elle en dit 3.
Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait, précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret.
Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée de bouche en bouche, allait croissant,
avant la fin de la journée, il se montait à plus de 100.
Les deux amis. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa.
L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre.
Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre.
Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence de soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme.
Il court chez son intime, éveille les valets.
Morphée avait touché le seuil de ce palais.
L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit
« Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme.
N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ?
En voici.
S'il vous est venu quelques querelles, j'ai mon épée. Allons.
Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul ? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle ?
Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point.
Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant, un peu triste apparu.
J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis venu, vite, accouru.
Ce maudit songe en est la cause.
Qui d'eux aimait le mieux ? Dites ensemble, lecteur.
Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose.
Il cherche vos besoins au fond de votre cœur.
Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même.
Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
La laitière et le pot au lait. Plus connu déjà.
Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats.
Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un 100 d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait à bien pour son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de la maison.
Le renard sera bien habile.
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc, sans graisser, coûtera peu de son.
Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon.
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau.
Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée.
Le lait tombe.
Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens qui tend d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu.
Le récit en farce en fut fait.
On l'appela le pot au lait.
Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait château en Espagne ?
Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous.
Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux.
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon temple même. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même ? Je suis Gros-Jean comme devant.